Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés pour prendre soin de vous, de nous, de tout le monde. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, nous allons vous parler de médecine de précision en cancérologie avec un coup de projecteur sur le projet baptisé PRISM. Son objectif est simple, innover pour sauver plus de vies. En gros, PRISM, c'est un centre de précision en oncologie au cœur duquel des médecins, des chercheurs et même des ingénieurs mettent leur savoir-faire en commun. Leur but, c'est d'identifier très tôt les patients porteurs des cancers les plus agressifs afin de leur proposer le traitement le plus approprié dès le début de la prise en charge. Pour nous détailler cette médecine nouvelle génération, nous recevrons le professeur Fabrice André. Il est directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous avons décidé de vous expliquer une fois pour toutes ce qu'est une thrombose. Quels sont les signes qui doivent y faire penser? Comment ne pas passer à côté, Jimmy nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à un homme qui s'interroge sur la réalité des rapports sexuels dans un couple après la naissance d'un enfant.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Bruno. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'aurais une petite question. J'ai mon père qui me pousse tout le temps à manger des fruits secs et surtout avant que je fasse du sport en fait. Il me dit tout le temps que c'est extrêmement bon pour mon organisme, c'est bon pour mon corps. Et j'aurais voulu savoir si c'était vrai. Si c'est vrai, évidemment, savoir lesquels il faudrait manger en priorité.
Alors Jimmy, d'abord attention, je sais que vous êtes un grand spécialiste de la nutrition. Quand on parle de fruits secs, enfin vous en mangez en tout cas, vous êtes un consommateur on va dire. Il y a bien sûr les fruits, les abricots, les raisins secs, mais il y a aussi les oléagineux. En fait, il y a deux sortes de fruits secs. Hein,
exactement, quand on parle de fruits secs, on va penser naturellement ou pas forcément aux oléagineux qui sont naturellement secs, comme les noix ou les noisettes, alors que d'autres vont être déshydratés et devenir secs secondairement.
Comme les figues que vous adorez, exactement, les figues séchées.
Les abricots, les fraises, les raisins, les figues ou encore les bananes. Alors, c'est vrai que c'est pas mal pour la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il reste malgré tout assez riche en glucides, en sucre, et donc il ne faut pas en manger toute la journée. Une petite poignée par jour, c'est largement suffisant, mais ça ne remplace jamais un fruit frais, qui reste plus important et plus intéressant pour votre équilibre nutritionnel.
D'accord. Alors, il y a les fruits secs à chair, comme les abricots secs, ça vous venez nous l'expliquer, ça ne remplace pas les fruits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les vitamines, en fait, quand ça sèche, il n'y a plus les fibres non plus, peut-être ? Je
Alors,
ne sais pas.
N'oubliez pas que lorsque vous mangez un fruit, vous allez manger, mais vous allez aussi boire. Donc, les fruits naturels sont composés d'eau
oui,
et donc à ce moment-là vous allez vous hydrater un peu plus avec de vrais fruits qu'avec ces fruits secs. Et puis il faut bien se rendre compte que la teneur en vitamines n'est pas tout à fait la même une fois qu'elles sont séchées. Si je prends par exemple celle de la vitamine C, c'est une vitamine qui est extrêmement fragile et donc il n'y en a quasiment plus dans les fruits secs. À l'inverse, si vous prenez le raisin sec, dedans vous allez trouver du fer et de la vitamine B. Dans l'abricot, vous aurez du potassium et dans la banane, du magnésium. Et quant à la figue, elle apporte du calcium lorsqu'elle est séchée. Donc vous voyez, en fonction du fruit...
Il y a des choses, mais il peut y en avoir moins, donc ne pas négliger les fruits classique. Alors Bruno, il demande si les fruits secs sont un peu l'allié, on va dire, du sportif. Est-ce que c'est important ? C'est vrai qu'on voit hein, les gens qui font des gros efforts intenses, souvent des gros sportifs, on va dire qu'ils mangent ça avant un marathon, par exemple.
Oui,
c'est une bonne idée.
Les vrais sportifs, les
pour
grands
vous,
sportifs.
Pour vous, c'est pas la peine. Quoi.
Moi, c'est pas la peine. Déjà, de faire du sport, c'est une bonne chose. Alors évidemment, les fruits secs sont une bonne source d'énergie, puisque les oléagineux vont être forts en lipides, et donc elles vont être un peu plus énergétiques que les fruits secs qui vont être déshydratés. Mais attention, faut bien les choisir, de préférence nature.
Allez, cacahuètes. Salé, ça marche
pas. Exactement, ouais, parce qu'il y a trop de sel. Et donc, justement, les sportifs peuvent consommer ces fruits secs avant ou même pendant l'effort. Mais je vous parle encore d'un effort prolongé, comme la randonnée ou le marathon. Et sachez que les fruits secs les plus caloriques sont les raisins secs et les dattes. Donc, mine de rien, ça a l'air bon, c'est délicieux.
Une petite poignée, ça suffit.
Voilà.
Très bien.
Et pas toute la journée.
D'accord, merci beaucoup, Jimmy. On va prendre une deuxième question pour vous. C'est la question de Johan.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Mon médecin m'a diagnostiqué une hypertension. Elle m'a expliqué que c'était pas bien grave, que j'étais pas le premier, mais tout de même, elle me demande de faire une batterie de tests assez régulièrement pour vérifier mon cholestérol, mon taux de sucre dans le sang. Et ça me semble assez sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que l'hypertension artérielle peut avoir un impact sur ma santé, et comment la traiter ? Merci pour votre réponse.
Jimmy, alors on va pas remettre en question le diagnostic évidemment de Johan. Il se dit, on m'a diagnostiqué une hypertension en me disant que je suis loin d'aller le premier, ça c'est véritablement le cas. Il y a beaucoup de gens, mais c'est pas rien hein, par contre.
Alors l'hypertension artérielle, c'est la maladie cardiovasculaire la plus fréquente et c'est même la maladie chronique la plus fréquente. En France, c'est un Français sur trois qui est hypertendu et vous en avez près de la moitié qui n'est même pas au courant qu'il y a de l'hypertension. Parce que finalement, c'est un tueur silencieux. Vous pouvez avoir 15, 16 de tension durant des années sans même vous en rendre compte. Et puis si on s'intéresse aux patients qui ont de l'hypertension artérielle et qu'on leur donne un traitement, eh bien seulement 1 sur 4 va avoir une tension équilibrée. Ça veut dire que la majorité des hypertendus, malgré leur traitement, ont des chiffres tensionnels trop importants.
Alors, son médecin a voulu le rassurer en lui disant « c'est pas bien grave, mais si, c'est quand même une maladie, alors je dis pas que c'est grave, mais que c'est à prendre très au sérieux, puis avoir de graves conséquences. »
C'est une maladie grave, puisqu'elle est chronique, elle aura des conséquences forcément graves sur l'ensemble de vos organes. Je vous rappelle que l'hypertension, c'est le reflet de la pression dans vos vaisseaux. Vaisseaux que vous allez retrouver partout dans votre corps, donc une hypertension artérielle mal équilibrée, eh bien c'est des problèmes de vue, vous allez avoir la rétinopathie hypertensive, ça veut dire de l'insuffisance rénale, ça veut dire une atteinte hépatique, une atteinte cardiaque, tous les organes du corps seront atteints par une hypertension artérielle. À l'inverse, prendre soin de sa santé, eh bien, c'est de prendre soin de sa tension.
Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que ça se traite. Vous l'avez dit, il y a des médicaments et même parfois, il n'y en a pas besoin. Des mesures d'hygiène suffisent.
Exactement. Hein. On ne prescrit pas forcément des traitements. Il faut d'abord savoir que vous faites de l'hypertension. Premier point, acheter un tensiomètre, du coup, pour savoir si vous en faites. Et puis, on va vous proposer des mesures simples. Réduire votre quantité de sel, boire un peu moins d'alcool, car l'alcool fait monter la tension. Pratiquer de l'activité physique, perdre un peu de poids. Et si nécessaire, on prescrira un traitement dont il faudra suivre pendant de nombreuses années, car c'est une maladie chronique comme le diabète.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Fabrice André. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, donc je vous présente, vous êtes directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy, directeur de recherche INSERM et professeur à l'Université Paris-Saclay. C'est vous qui coordonnez ce centre de médecine de précision baptisé PRISM, un centre qui a été lancé, je crois, il y a pile un an. Pas forcément au meilleur moment, hein, mais il existe, il est là. En quelques mots, c'est quoi PRISM ?
Alors, c'est avant tout un programme de recherche. Alors, pour expliquer le programme de recherche, il faut d'abord revenir à qu'est-ce que c'est le cancer. Donc, le cancer, c'est des mutations dans des cellules qui font que des cellules se mettent à proliférer anormalement et sont elles-mêmes infiltrées par des cellules immunitaires. Et l'élément clé pour comprendre l'ambition sur le cancer, la nouvelle stratégie, c'est que chaque patient a un cancer qui est unique. Et donc l'objectif de PRISM, c'est comprendre chez chaque patient c'est quoi les mécanismes moléculaires de son cancer à lui ou à elle. Et à partir de là, on en déduit la gravité et surtout et aussi quelle cible il faut taper pour améliorer le pronostic.
C'est très clair.
Et donc l'objectif, c'est d'identifier très tôt dans la maladie des patients qui sont porteurs d'un cancer les plus agressifs pour leur proposer dès le départ un traitement. Car à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Alors, à l'heure actuelle, bon, il faut dire déjà qu'on fait ce qu'on peut, mais
bon,
si on donne un exemple...
C'est très compliqué, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on parle de diagnostic très précoce. En ce moment, le diagnostic, c'est compliqué. On n'arrête pas d'entendre parler de retard, etc.
Alors, on va se positionner en période hors Covid.
Voilà,
on va dire
admettons,
pour,
on parle de ce côté-là.
Pour des raisons de simplicité. Alors, aujourd'hui, par exemple, une patiente qui a un cancer du sein. Quand on dit « Madame, votre cancer du sein n'est pas grave », globalement, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% de rechute. Une patiente à qui on dit vous savez, il y a un risque qui est quand même élevé de rechute, c'est à peu près 30%. Donc on voit que la différence entre le grave et le pas grave, finalement, n'est pas très importante. Donc là, un des objectifs, c'est de dire, vous savez, quand on dit que c'est un cancer qui est grave, c'est plus de 50% de risque de rechute. Et là, du coup, on peut donner des traitements innovants beaucoup plus tôt dans la maladie.
Est-ce que ça veut dire que plus un cancer va s'aggraver dans le temps ou ne pas répondre au premier traitement que vous proposez aujourd'hui, hein, je veux dire à l'heure actuelle, donc rechuter éventuellement, plus il va devenir finalement pour vous, médecin, complexe à soigner ?
Alors là, on rentre dans le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Ce qui a été analysé, deux éléments. Au niveau clinique, les médecins voient que à la même thérapie, elle est moins efficace quand elle est donnée tardivement, c'est-à-dire après résistance. Deuxièmement, d'un point de vue biologique, si on analyse le cancer, on voit que le nombre de mutations du cancer augmente de façon extrêmement importante lorsqu'il a été pré-traité ou lorsqu'on est tardif dans l'histoire de la maladie. Et comme il y a beaucoup de mutations, c'est plus compliqué à traiter avec des traitements, on va dire, simples.
Mais est-ce que du coup, ça pourrait concerner tous les types de cancers ? On pourrait les dépister, enfin, en tout cas, les prédire l'évolution pour tous les cancers ?
Alors nous... C'est vrai qu'on a appris à être modeste dans notre discipline. Donc déjà, si on arrive à rendre service à un certain pourcentage de patients qui ont le cancer.
On va commencer
on sera
par
2-3,
puis après on les fera tous.
Donc
quoi.
Là, je pense que la discussion vraiment, c'est de nous, c'est un programme étape par étape. Donc on va commencer déjà par un certain nombre de cancers. Et si on y arrive, on passera à d'autres à l'étape ultérieure.
Step by step. Même chose pour les cancers qui rechutent. Il y en a, on le sait, des diagnostics sont des cancers, vous l'avez dit, hein, qui vont avoir, je sais pas, 30% de risque de rechute. Est-ce qu'on pourrait à terme vraiment toutes les éviter, ces rechutes? Est-ce que c'est un objectif atteignable?
Alors, en termes d'objectifs, là encore, on a une feuille de route. On a les éléments scientifiques et technologiques qui probablement peuvent nous amener dans les 10 ans à peu près 70% de cancers guéris. Aller au-delà, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir des esprits brillants, imaginatifs, qui nous amènent des choses qu'on ne sait pas encore. Mais la feuille de route pour arriver jusqu'à 70%, elle est tracée. Pour revenir à votre question, il y a un élément clé pour détecter précocement les rechutes qui va arriver, qui est la détection dans le sang de traces de cancer. Qui sont en fait des petites crottes du cancer que le cancer met dans le sang. Et avec ça, on pourra détecter plus précocement les rechutes.
Alors, on va prendre un exemple. Dans le centre PRISM, vous menez notamment des études sur le cancer du pancréas, parce que là, il y a urgence.
Alors, le cancer du pancréas, c'est une urgence. C'est un des deux cancers dont les taux de mortalité sont stables ou augmentent en Europe. Donc, c'est vraiment une urgence. Ça va être une des 5 principales causes de mortalité par cancer, donc c'est une urgence. Et surtout, on a une seule cible actuellement thérapeutique. Donc nous, les deux programmes phares, outre les nouveaux médicaments, c'est un, est-ce qu'on peut détecter plus précocement ce cancer grâce notamment à ce qu'on appelle de l'ADN circulant, détecter de l'ADN du cancer dans le sang. Et le deuxième élément sur lequel je crois qu'on va revenir plus tard, c'est est-ce qu'on peut créer des cancers en dehors du patient, les exposer à des médicaments pour voir lesquels pourraient marcher sur ces sortes de cancers synthétiques qui reproduisent le cancer en dehors du patient.
Voilà, et selon vos estimations, si vous arrivez donc à mettre au point ce test pour détecter très précocement le cancer du pancréas, ce serait quand même 100 000 personnes tous les ans qui pourraient être sauvées dans le monde. Et je rappelle que pour ça, vous avez besoin d'encore plus de moyens. Alors n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, vous pouvez faire un don sur le site gustaveroussy.fr pour soutenir PRISM. Professeur André, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et notre invité, donc toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Fabrice André. Vous êtes directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy. Vous êtes directeur de recherche INSERM et professeur à l'Université Paris-Saclay. Et donc, c'est vous qui coordonnez ce centre de médecine de précision, baptisé PRISM, dont on parle cet après-midi. Alors, dans ce centre PRISM, vous développez des tests pour mieux détecter des cancers agressifs. On a parlé du pancréas il y a quelques minutes, pour sauver donc encore plus de patients. Et cela se fait aussi grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon globale, on va dire pour le moment. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette technologie, comme possibilité?
Alors, globalement, l'intelligence artificielle va voir ce que le chercheur ne voit pas ou le médecin ne voit pas. On va prendre un exemple concret. Donc, le cancer, aujourd'hui, on fait de l'anatomopathologie, c'est-à-dire des lames sur lesquelles on voit le cancer. Mais en fait, ces lames, elles contiennent plusieurs dizaines ou centaines de millions de points et d'informations. Donc le médecin, il ne peut pas extraire toute l'information de ça. Par contre, si on transforme ces lames en images et qu'on demande à une intelligence artificielle d'identifier la combinaison de points associés à de la rechute, à ce moment-là, l'intelligence artificielle, elle peut le faire. Donc en fait, ça permet d'identifier des mécanismes ou des images que le cerveau humain ne peut pas faire. Et on fait ça grâce à nos collègues de l'école centrale Supélec.
Et du coup, l'objectif dans ce projet PRISM, c'est d'arriver dans le futur à générer pour chaque malade diagnostiqué, dès le début de sa maladie, son cancer virtuel, une forme d'avatar de chaque cancer, c'est ça? Mais du coup, quel va être l'intérêt derrière tout ça?
Exactement. L'objectif, ce qu'on appelle nous le livrable de la recherche, c'est chez chaque patient, être capable de modéliser les mécanismes biologiques de son propre cancer, avec deux outils possibles. Le premier, c'est une sorte de software informatique où on visualiserait le cancer. Et l'autre outil, ce sont des cancers en dehors du patient qu'on cultive et qu'on expose à des médicaments ou à où on éteint les gènes. Et ça, l'objectif, c'est une fois que vous avez identifié le mécanisme moléculaire qui fait progresser le cancer, ben à ce moment-là, j'aurais tendance à dire qu'il ne reste plus qu'à le bloquer avec un médicament.
Donc pour chaque patient, on va créer d'ici quelques années peut-être, là vous êtes déjà en train de mettre tout ça au point, un avatar pour de son cancer pour chaque patient, ce qui permet de dire bah, tiens, celui-là il a une chance sur deux de rechuter, celui-là il répondra pas à la chimio, ça vous pouvez le faire, je dis à J1 du diagnostic, mais très tôt, pour plus tâtonner, pour plus perdre de temps, parce que finalement c'est malheureusement ce qu'on fait un peu aujourd'hui parfois.
Alors on peut pas dire aujourd'hui qu'on perd du temps, aujourd'hui on fait bon, le maximum avec nos outils, mais le problème aujourd'hui c'est vraiment que on ne peut pas déterminer chez chaque patient vraiment la cible thérapeutique parce que nos outils sont trop rudimentaires pour faire ça. Et deuxièmement, il y a des patients avec, pour lesquels vous allez juste faire de la chirurgie, ils n'auront plus aucun problème, et d'autres, malgré tous les traitements possibles, ils vont rechuter. Et donc, c'est vraiment cela qu'on veut identifier pour faire basculer des médicaments qui sont, qu'on appelle en cours de développement, des médicaments très nouveaux, vers ces cancers à des stades précoces.
Quand on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est de la science-fiction, que ça n'arrivera jamais. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose que vous utilisez en routine, notamment avec Gustave Roussy ?
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire en routine, mais il y a des logiciels, des outils qui commencent à sortir. Par exemple, puisqu'on est en plein dedans, il y a un outil qui a été développé par Gustave Roussy pour identifier, dès le scanner, des patients qui ont un Covid, lesquels vont aller mal ou ne vont pas aller mal, par exemple. Il y a des mécanismes, ce qu'on appelle de centrage, de simulation de radiothérapie, qui sont faits avec de l'intelligence artificielle. Donc ça commence à rentrer.
Dans les leucémies, je crois, il y a déjà des choses qui sont employées.
Dans les leucémies, c'est un outil qui est potentiellement très intéressant parce que les leucémies, en fait, les cellules sont toutes différentes. Donc l'intelligence artificielle peut vraiment voir les distances entre chaque cellule et analyser chaque cellule.
Alors, dans votre projet Prisme, il y a aussi une étude notamment sur le cancer du poumon pour améliorer sa survie, en particulier chez des patients jeunes non fumeurs, car pour eux, la situation est encore pas terrible, elle est plutôt même grave en fait.
Alors, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure du cancer du pancréas, le deuxième cancer qui pose un vrai problème aujourd'hui, c'est le cancer du poumon chez la femme. Alors, on ne va pas rentrer là dans les causes au niveau épidémiologique, parce que je pense que c'est une autre émission, mais c'est un cancer qu'on appelle émergent, dont la mortalité augmente. Et donc, notre mission à nous, chercheurs, c'est de comprendre, grâce à l'intelligence artificielle notamment, quels sont les mécanismes moléculaires qui font que ce cancer est embêtant et a une évolution. Après, le cancer du poumon, une des raisons pour lesquelles il est grave, c'est qu'en fait, souvent, il est détecté tardivement. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment de la place pour du dépistage précoce.
Et donc ce test, si vous arrivez à le mettre au point, de dépistage précoce du cancer du poumon, notamment chez des jeunes non-fumeurs, on va le proposer à tous les jeunes de la population. Enfin, comment vous allez faire le tri, justement ?
Alors ça rejoint un autre programme scientifique, médico-scientifique de Gustave Roussy, je crois que vous l'avez vu il y a quelques temps, de Madame Delaloge, qui, elle, a pour but de dire dans la population générale, est-ce que je peux identifier des personnes qui ont un risque élevé de cancer. Et à ce moment-là, comme ils ont un risque élevé de cancer, on les fait rentrer dans un parcours de soins qui vise à réduire ce risque ou à détecter précocement le cancer. Donc là, on voit que ce sont deux programmes qui, en fait, sont assez proches, finalement.
Et on peut espérer avoir ça d'ici combien de temps ? Est-ce que c'est de la science-fiction ?
C'est pas dans 20 ans, quoi. Oui.
Alors, c'est toujours pareil. Nous, la première version de ces modélisations du cancer, on espère à la fin dans 5 ans, avoir une première version. Si on améliore encore un petit peu le pronostic des malades, on sera ravis. Après la question, il y aura une deuxième version, une troisième version, une dixième version. Et peut-être que Mélanie, dans 20 ans, il y aura la version 30 qui, elle, sera
parfaite.
Et
si on est encore là, on en parlera bien évidemment. Professeur André, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Fabrice André. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy et que c'est vous donc qui coordonnez ce centre de médecine de précision baptisé Prisme dont on parle cet après-midi. D'ailleurs, précisons que c'est un centre unique en France, ça c'est sûr. Et est-ce que dans le monde, il y a d'autres projets de ce type ?
Exactement. Donc nous, en fait, au quotidien, on travaille avec nos collègues, notamment de New York, Memorial Sloan Kettering, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, donc il y a d'autres centres et tout le monde fait ça ensemble. Quoi. C'est
une recherche internationale quand même. Hein,
global.
Est-ce que vous avez pu estimer le nombre de vies que vous pourrez potentiellement sauver dans le monde grâce notamment au programme Prisme ?
Alors, il y a effectivement donc c'est la mode, les modélisations. Donc il y a des statisticiens de Gustave Roussy qui ont effectivement modélisé quel pourrait être l'impact d'un tel programme s'il réussissait. Ils sont aboutis à 200 000 vies sauvées par an dans le monde.
C'est pas rien.
c'est même énorme, mais c'est une modélisation qu'on va dire si on arrive à faire tout ce qu'on
veut. Et pour cela, ben, il vous faudra davantage de moyens, bien sûr. Et toujours, on le rappelle, hein, n'hésitez pas à faire un don pour soutenir ce projet Prisme sur le site gustaveroussi.fr. Alors, l'objectif, grâce à cette médecine de précision nouvelle génération, c'est de proposer aussi à des patients, donc avec des cancers graves mais dépistés tôt, on en a parlé de tout cela, de les traiter quand la guérison est encore possible, avec des traitements innovants. Qu'est-ce que ça signifie que vous développez de nouveaux médicaments via ce programme aussi?
Alors, il y a dans plein d'hôpitaux en France des nouveaux médicaments qui sont en train d'être développés. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, on va prendre l'exemple de l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, c'est j'active le système immunitaire. Ça marche bien, enfin relativement bien, dans les cancers métastatiques. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est-à-dire ce traitement qui est issu des biotechnologies, si j'arrive à le donner à un cancer localisé, pris précocement, en fait, son effet, il est démultiplié. Et donc, sur l'exemple de l'immunothérapie,
c'est assez fort. Il n'en arrivera jamais aux métastatiques, justement.
Et à ce moment-là, l'objectif des soins, là, c'est vraiment la guérison. Oui, donc, en fait, la première stratégie, c'est de repositionner des médicaments qui ont une efficacité modeste quand le cancer est métastatique, où ils vont avoir une efficacité extrêmement importante.
De super tueurs de cancer.
Dans les cancers localisés.
Et d'ailleurs, vous estimez que 50% des rechutes de cancer pourraient être évitées. Ça fait rêver, franchement. Et justement, dans un des essais cliniques que vous menez à Prisme, eh bien, vous êtes intéressé aux défauts de réparation de l'ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Exactement. Alors, pour revenir sur le 50%, un exemple concret, un médicament qui s'appelle Herceptine, ça a donné 3 mois de bénéfice dans les cancers métastatiques. Ça a réduit de 50% le risque de rechute quand les cancers sont pris au stade précoce. Donc, c'est pour illustrer d'où sort 50%. Sur la réparation de l'ADN, donc là, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais essayer. Donc, le cancer, c'est quoi? C'est des mutations. Et souvent, c'est lié au fait que la cellule n'arrive pas à réparer ces mutations. On a des protéines qui réparent les mutations. Donc, dans le cancer de l'ovaire, par exemple, il y a le défaut d'une protéine qui s'appelle BRCA, qui, du coup, ne répare plus les mutations. Et donc, ces nouveaux traitements, ils visent à bloquer une deuxième voie de réparation de l'ADN. Et à ce moment-là, il n'y a tellement plus la possibilité de réparer que la cellule meurt d'elle-même. L'exemple, c'est celui de la chaise cassée. Une chaise, elle a 4 pieds. S'il lui manque un pied, elle tient toujours. S'il lui manque 2 pieds, ça tombe. Donc en fait, on crée encore plus de déficit de réparation pour que les cellules accumulent trop de mutations et les cellules cancéreuses meurent.
Et donc là, cet essai clinique sur la réparation de l'ADN, il ne va pas être destiné qu'aux femmes avec un cancer de l'ovaire, parce qu'il y en a d'autres, non, des cancers dans lesquels il y a un défaut de réparation de l'ADN, clairement.
Vous avez complètement raison, Mélanie. En fait, ces déficits de réparation de l'ADN sur des protéines qui s'appellent BRCA1, BRCA2, c'est environ 4% des cancers du sein.
Ah oui.
Un certain pourcentage des cancers de prostate, aussi un certain pourcentage de cancers du pancréas. Donc, on estime grosso modo que c'est à peu près 2% de l'ensemble des cancers. Donc ça, c'est une approche qu'on appelle transversale entre différentes tumeurs.
Comment est-ce que vous choisissez les patients qui participent au projet, aux essais cliniques que vous menez à Prisme? Est-ce que c'est juste des patients qui sont suivis à Gustave Roussy ou vous en avez qui viennent de toute la France?
Alors, en fait, d'abord, pour sélectionner un patient ou une patiente pour un essai clinique, il faut que l'essai clinique lui apporte un bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a un médicament qui apporte un bénéfice dont on pense qu'il apporte un bénéfice. Soit c'est des études qu'on appelle non interventionnelles, et à ce moment-là, ce sont des prélèvements. Donc aujourd'hui, sur les études cliniques qu'on est en train de développer, celles qu'on a actuellement, c'est que les patients Gustave Roussy, et là, on va en ouvrir dans les mois qui arrivent, qui s'étendront sur à peu près une dizaine de centres.
Donc tout ce dont on vient de parler, professeur, quand la plupart de ces travaux, donc que ce soit le pancréas, l'ovaire, le poumon, quand tout ça aura abouti dans quelques années, le but ultime de tout ça, c'est d'en arriver où dans 20 ans pour les patients, très concrètement?
Alors, on va plutôt que parler de but, on va parler de rêve. En fait, le rêve, ça serait quoi? C'est de vous dire, un patient, une patiente arrive, grâce à l'avatar du cancer, vous pouvez modéliser les mécanismes biologiques du cancer. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez construire à façon un médicament par patient. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment au lit du malade, vous créez une manufacture qui crée le médicament par patient. Donc ça, c'est vraiment un rêve, une vision. Je n'aurais pas jusqu'à dire que c'est un but, parce qu'on n'a pas encore de marge pour y arriver, mais c'est vraiment une vision. C'est parce que j'ai compris les mécanismes moléculaires du cancer, alors je manufacture un médicament par patient.
Merci beaucoup, professeur André, d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous faire rêver, mais nous montrer cette recherche qui est déjà en marche, hein, grâce à vous, dans ce projet Prisme, qui nous donne vraiment des raisons d'espérer que davantage de vies seront sauvées du cancer dans les années à venir. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Bien-être, Santé, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et donc, nous allons passer à présent à notre séquence Les mots du quotidien. Avec un mot, M-O-T, qu'on a beaucoup trop entendu ces derniers jours, la thrombose. Mais au fond, savez-vous vraiment à quoi cela correspond? Quels sont les signes d'une thrombose? On a eu envie de savoir quelles étaient vos connaissances sur le sujet. Écoutons le micro-trottoir pour commencer de notre journaliste Valentin Piovesan.
La thrombose, ça ne dit pas grand-chose. Je pense que c'est une maladie ou un problème de santé que tout le monde peut avoir d'un coup comme ça.
Et il y a eu des cas à cause du vaccin du coronavirus.
Ça m'évoque une maladie du sang peut-être.
Oh, j'imagine que c'est un accident vasculaire.
Oui, il me semble que c'est quand le sang coagule trop et que finalement ça forme un caillot qui peut percer une artère.
En tout cas, je sais que les caillots de sang, ça peut être très dangereux si ça monte dans le cerveau ou autre part.
Je pense que c'est dangereux. Après, comme toute maladie, ça doit soigner.
A priori, je dirais comme c'est un problème de caillot, je pense qu'il faudrait pas s'exciter, pas se mettre à bouger trop vite et à courir dans tous les sens.
Il faut simplement faire à Doppler, aller chez son médecin qui nous fait un examen clinique.
Soit essayer d'injecter une sorte de produit ou une sorte de médicament.
Quand on a une alimentation trop salée ou trop grasse, ça peut nous arriver d'avoir des caillots de sang. Ça donne de gros problèmes de santé. Ça peut même se finir aux urgences, au pire des cas, à la mort.
Bon, alors Jimmy, reprenons les bases. Une thrombose, c'est quoi? Est-ce que si je dis un tuyau sanguin bouché, j'ai bon?
Oui, c'est vrai, mais ça, vous avez raison, Mélanie. On aime bien, nous, utiliser des termes un peu pompeux. On parle de caillot sanguin.
Parlons de plomberie, c'est plus simple.
C'est la plomberie, c'est vrai que les vaisseaux sanguins, c'est des tuyaux. Et quand un tuyau est bouché, c'est une thrombose. La thrombose, elle peut survenir dans des vaisseaux, que ce soit des vaisseaux sanguins, donc ça va être dans une phlébite ou une embolie pulmonaire, ou des vaisseaux artériels, comme dans le cerveau, avec un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Une artère qui se bouche dans un organe, eh bien, ça donne une douleur, c'est la thrombose.
Vous avez parlé de la phlébite, justement, comment ça se manifeste? On peut le savoir, nous, qu'on a une phlébite, et comment vous, les médecins, derrière, vous confirmez ce diagnostic?
Alors, il n'y a pas toujours des symptômes, mais heureusement qu'il y en a, parce que sinon on serait bien embêté. Dans la phlébite, vous allez avoir un caillot qui va se former dans un vaisseau de la jambe, un vaisseau sanguin. Et forcément, quand le vaisseau va être bouché, ça va faire mal, forcément, parce que le sang va moins bien circuler.
Une douleur dans
Donc vous allez avoir une douleur dans le mollet,
par exemple.
Cette douleur, elle va être quasiment permanente. Elle n'est pas trop liée à la mobilisation. Et puis, le mollet va être un peu plus chaud, un peu plus rouge, un peu douloureux. Et puis, surtout, il y a toujours un contexte à la phlébite. On a l'impression que la thrombose va vous tomber dessus, mais il y a des terrains, il y a un facteur prédisposant pour faire une phlébite.
Une phlébite, c'est une urgence parce qu'il peut y avoir une complication que vous redoutez particulièrement. On verra sur
la
les causes après.
Alors, pourquoi est-ce qu'on est inquiet? C'est qu'on pense que lorsqu'il y a un caillot qui va se former, eh bien, il peut migrer, il peut se détacher et aller dans la circulation générale en quelque sorte, et migrer au niveau des poumons et donner ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et c'est pour ça qu'on vous donne des anticoagulants. Ce n'est pas pour détruire le caillot, celui-là, il va partir tout seul. Mais c'est pour éviter la formation de nouveaux caillots et prévenir une récidive, et donc on donne des anticoagulants.
Je reviens sur le contexte dont vous parliez à l'instant. On va pas revenir là sur le débat actuel sur la vaccination, mais la HAS, la Haute Autorité de Santé, a reconnu un risque rare mais présent donc de thrombose. La thrombose, d'un point de vue général, elle survient dans quel contexte? Alors là, on ne parle pas forcément de vaccination.
Alors, il peut y avoir un terrain héréditaire. Lorsque vous avez des atteintes de la coagulation, certains patients vont faire des thromboses plus que d'autres. Et puis, il y a des terrains prédisposants, des facteurs de risque, notamment pendant la grossesse. On sait que c'est une période où vous pouvez faire des thromboses. C'est pour ça qu'on propose notamment des bas de contention et dans le postpartum. Lorsque vous avez une intervention chirurgicale, lorsque vous prenez l'avion. Donc, la thrombose, elle vient dans l'immense majorité du temps, dans un contexte particulier. Et puis, n'oubliez pas que le facteur de risque le plus important de thrombose, c'est pas le vaccin. C'est le tabac. Le tabac, c'est un facteur majeur de thrombose, et aussi la pilule œstroprogestative. On a voulu donner de la contraception, et c'est une bonne chose, aux femmes, en leur disant « vous risquez une thrombose ». Donc on a accepté ce risque, on a accepté de vivre avec, alors que peut-être c'était déraisonnable.
Juste un mot, justement, on parlait de vaccination, mais c'est surtout le Covid lui-même, il faut le rappeler, qui peut avoir cet effet.
Eh oui, embolie pulmonaire, thrombophlébite cérébrale, vous pouvez avoir un accident vasculaire cérébral secondaire au Covid. Donc vaccinez-vous, protégez-vous, et on va s'en sortir.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Jean-Paul. On l'écoute.
Un auditeur vous demandait quelle était la fréquence des rapports sexuels pour un couple. On me dit que certains couples, après un premier enfant, ne font pratiquement plus jamais l'amour. Est-ce vrai, fréquent ou non ?
Merci pour votre question, Jean-Paul. Alors Catherine, c'est vrai, on ne peut pas le nier, hein, en tant que bon jeune parent que nous sommes, Jimmy.
Que vous êtes un témoignage, Mélanie.
Non, mais que après un enfant, les choses changent un petit peu pendant un certain temps.
Je vous laisse témoigner, Mélanie. Coupe ton micro.
Quand on a un enfant, dans les semaines qui suivent, c'est un peu compliqué. Déjà, techniquement, au départ, ben voilà, on vient d'accoucher, donc ça ne reprend pas tout de suite, ça c'est sûr. Et puis ensuite, la vie de couple, ben, elle est forcément un peu chamboulée.
Vous avez deux enfants, Mélanie, donc elle a été deux fois plus chamboulée, non
c'est Et ça vous trois, oula, bon,
c'est pas un match, c'est pas un match. Bon, le fait est qu'effectivement, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Les contextes d'abord du fait qu'il faut se réapproprier son corps. Pour peu qu'une maman allaite, elle produit de la prostaglandine, qui est une hormone anti-érotique au possible, puisque le but, c'est d'être toute vouée à son enfant et pas du tout à son mari pour ne pas refaire d'enfant, pour ne pas risquer d'avoir un létari. Pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Donc ça ne va pas dans le sens évidemment de l'érotisme. À cela s'ajoute évidemment la fatigue des deux heures, toutes les deux heures, les tétés qui ne laissent pas beaucoup de possibilités de penser à des choses
à
plutôt
la
voilà, un peu érotisées, puisque le but, s'il y a un peu de temps, c'est de dormir, c'est de se reposer, c'est retrouver ses forces. Donc ça, c'est du côté féminin. Et puis il faut aussi dire un point plutôt très positif, c'est aussi l'émerveillement d'une maman à l'égard de son bébé, est tellement émerveillée qu'effectivement, elle en oublie peut-être
l'émerveillement
un
de
peu
ce mari à côté d'elle.
L'émerveillement de son homme. Alors évidemment, le monsieur au milieu de tout ça, c'est assez compliqué parce que lui, hormonalement, il n'y a rien qui a changé. Il est toujours bon pied, bon oeil. Simplement, sa belle n'a pas toujours la même disponibilité, ce qui entraîne parfois des états de conflit. Ceci étant, il a quand même une grande mission, hein, c'est subvenir aux besoins de son enfant, lui aussi. Donc souvent, c'est un moment où les messieurs sont très professionnellement très, 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 très investis parce que justement, ils ont un rôle à jouer parce qu'ils ont été un peu évincés de la grossesse, évincés de l'accouchement, évincés des premiers temps. Donc du coup, ils surinvestissent leur champ professionnel, un, pour définir leur puissance et puis deux, pour subvenir aux besoins de leur enfant. Donc c'est quand même pas le moment le plus érotisé.
Vous
n'allez
pas faire croire que c'était comme toujours, quoi, Dimi, hein, non plus.
Je ne répondrai pas à cette question. Mais passé les premières semaines difficiles, ensuite on retrouve un semblant d'équilibre. Pour autant, eh bien, les nuits sont difficiles, il faut parfois reprendre le travail, s'occuper de la maison. Et puis s'il y a d'autres enfants à côté, ça peut être difficile. Mais c'est important de faire quoi ? De se programmer des moments à deux en se disant, bon, on se donne un rendez-vous, peut-être hebdomadaire, même s'il ne dure qu'une heure. Est-ce qu'on doit s'imposer une forme de routine pour retrouver un peu d'équilibre ?
Je crois qu'il faut se mettre effectivement une petite routine. Je pense aussi qu'il faut que le couple se parle parce que c'est un moment d'épreuve. Et je pense qu'une maman a aussi besoin qu'un papa l'aide à se séparer de son enfant. Donc évidemment, il faut que ça se fasse tout en délicatesse parce que sinon elle va s'arc-bouter, protéger son enfant, ayant le sentiment que son mari devient le rival du bébé qui vient de naître. Mais une femme a besoin d'être enlevée à sa fonction et à son devoir de maman de temps en temps, et pour ça il faut qu'il y ait tout l'amour et toute la bienveillance de son mari pour l'y aider, sinon elle est naturellement vouée à son devoir et du coup il y a une confusion liée à la relation et à la jalousie potentielle, d'ailleurs qui parfois n'est pas que potentielle, qui est une réalité, et du coup qui fait le surinvestissement de la mère pour son enfant. Donc je crois que ce qui est important, c'est de trouver des rituels et surtout prendre la maman par la main en l'aidant à se séparer. Ton enfant ne va pas mourir, tout va bien, tu peux te reposer, appuie-toi sur moi et allons prendre l'air, laissons-le à tes parents, etc., etc.
Non, cette question, Jean-Paul disait, donc les enfants, j'ai entendu dire qu'après un premier enfant, les couples ne font pratiquement jamais l'amour, voire pas l'amour du tout. Alors on va dire 15 jours, un mois, deux mois, admettons, trois mois. Enfin, combien de temps ça, on considère que c'est normal qu'il n'y ait pas du tout de rapport sexuel? Et en moyenne, à peu près, combien de temps ça prend à finalement revenir à la normale?
Bon, déjà, il faut laisser le corps et l'utérus reprendre un peu son cadre normal.
D'un point de vue médical, Jimmy, dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, enfin, je veux dire, d'un point de vue médical, la maman, si elle a eu l'accouchement normal, on dit quoi, 15 jours, 3 semaines,
c'est
un mois?
C'est le temps des retours de couches et ça peut être un peu long. Donc, ou pas forcément, parce que si elle allait, ça peut être plus long.
Voilà, si elle allait, ça peut être très long.
Il faut la laisser un peu tranquille quand même, peut-être, non? Ou laisser le temps du traumatisme l'accouchement, mine de rien.
Oui, il y a un traumatisme, il y a le besoin que l'utérus retrouve sa place initiale, donc que ce soit un mois, ça n'est pas bien grave. En général, d'ailleurs, les femmes qui n'allaitent pas ont un retour de couche très rapide, donc 15 jours après, ce qui veut dire qu'un mois après, elles sont à nouveau réglées. Je pense que laisser un cycle entier se faire, c'est la moindre des choses. C'est bien pour elle, c'est bien pour son corps, pour ses muscles, se réapproprier aussi, parce que n'oublions pas que faire l'amour, c'est pour faire l'amour, c'est pour se faire du bien, et il faut avoir pouvoir retrouver ses sensations et la tranquillité de retrouver des sensations. Or, les dernières sensations en cette zone sont des sensations de tension très forte, de contraction, potentiellement, s'il y a eu une épisode, de tension derrière ou de soins. Donc voilà, laissons le temps au temps pour ne pas tout mélanger et pour retrouver la joie de la relation.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient demain, même heure, sur Europe 1. C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.